portrait d'association.
Portrait d'association.
À la découverte des associations du territoire sur RDWA.
Portrait d'association.
107.5 FM et 101.7 est réécoutable aussi en podcast sur le site rdwa.fr. RDWA.
Portrait d'association.
Et bonjour, je suis avec Alain Réveillon. Vous êtes le président de l'association Les Engoulevents, le club ULM. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu, cette association?
Alors nous sommes le club ULM du Haut-Diois. Le petit nom, c'est Les Engoulevents.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, l'engoulevent, c'est un oiseau migrateur qu'on voit sur le plateau de Lège de temps en temps et qui nous accompagne dans nos activités. Et c'est pour ça qu'on a souhaité faire ce petit clin d'œil.
Il plane bien?
Il plane pas beaucoup, mais l'engoulevent, il a la réputation de voler le bec ouvert pour avaler des insectes. C'est un petit peu comme les pilotes du LM, vous savez, qui pilotent en souriant. Voilà, une petite image amusante.
Donc vous en avez plein la bouche, quoi.
Non, on a des machines quand même aujourd'hui qui sont un petit peu plus confortables. On ne vole pas la tête à l'air, un petit peu quand même.
Alors, elle est basée où?
Alors, nous sommes basés à Lèche-en-Diois, sur le plateau de Lèche, où nous avons créé une base ULM, grâce à l'autorisation de nos amis agriculteurs qui nous louent un petit bout de terrain pour qu'on puisse se poser, et grâce aussi à la commune qui nous aide depuis le début et qui nous loue une parcelle sur laquelle nous avons pu construire un hangar pour abriter nos machines et pour accueillir nos membres.
Ça fait combien de temps?
Alors l'association a été créée en 2014 par quelques passionnés de vol que nous sommes, et on souhaitait partager un petit peu cette passion et en faire profiter les habitants de la région et puis les gens de passage, les touristes qui ont peut-être certainement envie de survoler cette magnifique région à bord de nos machines.
Vous êtes un groupe rassemblé parce que vous aviez déjà des machines ou l'association maintenant permet...
On est parti de zéro, on a tout créé. On s'est réunis, on a cherché des moyens de créer cette activité. L'intérêt de l'ultra-léger motorisé, c'est que ça permet d'amener l'activité quelque part beaucoup plus facilement que dans l'aviation certifiée où les procédures sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus complexes. Donc on voulait l'intégrer au cœur de ce territoire. Parce que ça n'existait pas. C'était pas a priori évident, mais on aime bien faire des choses comme ça un petit peu folles, quoi.
Mais d'où ça vient alors, cette idée?
Alors, l'idée, moi j'ai travaillé dans l'aéronautique pendant 40 ans, mes amis fondateurs aussi dans divers jobs. On avait sur place de bons contacts de personnes qui nous disaient « moi j'aimerais bien voler ». Et donc voilà, c'est parti de là.
Donc c'est ouvert au public?
C'est ouvert au public. Alors c'est une association, donc nous avons des membres. Certains sont pilotes, d'autres apprennent à piloter, d'autres sont simplement des personnes qui viennent nous aider parce que c'est une œuvre collective. On est là aussi pour se rassembler, créer des liens. Je veux dire, c'est le but d'une asso, hein. C'est pas juste pour la technique. Et on est environ 25 membres. Et puis autour de nous, à peu près autant de sympathisants, de personnes bénévoles qui viennent nous filer un coup de main de temps en temps quand on crée un événement ou qu'on a besoin de planter des clous pour reconstruire un bâtiment.
Et l'entretien?
Alors l'entretien, alors, l'ultra-léger motorisé, c'est assez particulier puisqu'on peut faire l'entretien soi-même. Nous avons choisi de faire nous-mêmes le petit entretien, c'est-à-dire les vidanges, des vérifications périodiques. Et pour l'entretien un petit peu plus complexe, nous faisons appel à un atelier spécialisé qui se trouve à Gap, sur l'aérodrome de Gap.
Est-ce qu'on peut décrire un petit peu les machines, parce que c'est particulier justement les ULM?
Alors c'est particulier. L'ULM, effectivement, c'est une grande famille de machines puisqu'il y a six classes de typologies tout à fait différentes. On part du paramoteur, c'est-à-dire un parapente avec un petit moteur dans le dos, jusqu'à
L'aile triangle. Là,
l'aile delta, qui delta est en fait le...
En tissu,
en toile, qui est l'ULM historique, hein, qui est la base, le point de départ de cette activité qui est née dans les années 80 à peu près. Et aujourd'hui, on va jusqu'à l'hélicoptère même, donc qui est vraiment le haut de gamme, le très haut de gamme, un petit peu confidentiel encore, mais qui fonctionne aussi. Alors nous avons choisi une gamme qui existe depuis longtemps, qui est le multi-axe, c'est-à-dire ce sont nos machines, ce sont en fait des petits avions, et ça fonctionne comme des petits avions, sauf qu'ils sont dans le registre ultra-léger motorisé, avec les limitations qui l'accompagnent, à savoir limitation de puissance, limitation du nombre de personnes à bord, et réglementation très spécifique, qui est relativement simple, mais qui met l'accent sur la responsabilité des pratiquants, donc des pilotes, bien sûr, mais aussi des organisateurs de l'activité, des constructeurs, etc.
Par exemple ?
Quand vous avez une réglementation qui est moins contraignante, moins tatillonne que celle de l'aviation certifiée, eh bien, toute l'activité, tout ce qui n'est pas réglementé, repose sur votre compétence, sur votre sens de la responsabilité, sur le respect de la sécurité des pratiquants, etc. Donc il faut mettre en place soi-même, au niveau de la structure, des règles qui nous sont propres, qui nous permettent d'évoluer en sécurité, avec, donc, je disais, des activités qui peuvent être très différentes, très diverses. Donc chacune a un petit peu sa façon de pratiquer et de régler, mais elles appartiennent toutes, généralement, à une même fédération, qui est la Fédération de l'ultra-léger motorisé, qui nous aide bien sûr à travailler dans le sens de la sécurité, de l'organisation, et qui réunit l'ensemble des structures qui y sont affiliées.
Donc chacun de vos membres sont licenciés quelque part de cette fédération ?
Alors, tous nos membres sont obligatoirement licenciés à cette fédération, soit en tant que sympathisants s'ils n'ont pas envie de voler, soit en tant que pilote ou élève pilote, soit en tant que formateur, ce qui est mon cas, si on est habilité à faire de la formation.
Voilà, j'allais y venir. Alors, quel diplôme passe-t-on pour être pilote ?
Alors, ce que je veux dire auparavant, c'est que cette activité est un peu particulière, puisqu'elle s'adresse au plus grand nombre, et on a souhaité pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap au sein de l'association. Et on a construit pour ça une machine qui a l'avantage d'être très accessible, à portée de transfert de fauteuil, avec des possibilités d'emporter son fauteuil et de piloter, bien sûr, tout à la main. Et c'est une bonne partie de notre activité. Donc on s'adresse à la fois aux personnes handicapées et aux personnes valides, de manière à leur faire découvrir le pilotage. Déjà, faire découvrir le vol, faire une balade, survoler ces paysages ici qui sont quand même assez, assez exceptionnels. Apprendre à piloter pour obtenir le brevet de pilote ULM. Et puis continuer à se perfectionner. Maintenant, nous avons un label pour faire de la formation au vol en région montagneuse et aux atterrissages sur des altisurfaces ou des altiports depuis quelques temps. Donc voilà cet ensemble d'activités que nous offrons à nos membres ou à toutes les personnes qui s'y intéressent ou qui viennent chez nous faire des stages pour quelques jours, pour se familiariser avec une activité particulière ou pour partager le plaisir de voler, tout simplement.
Et donc vous êtes le seul formateur
Alors nous sommes trois formateurs, je suis le formateur, je dirais, permanent. Les deux autres viennent nous aider de manière occasionnelle en fonction de leur activité. Moi je suis retraité, mais les autres ont toujours une activité professionnelle. Donc ils viennent nous aider en été ou lorsqu'on organise des manifestations, des rassemblements, des événements en général.
Il n'y a pas de salariés dans cette association ?
Il n'y a que des bénévoles pour l'instant. On espère que ça évoluera.
Ah oui ?
Pour pouvoir recruter un salarié, il faut avoir un volume d'activité suffisant. L'activité augmente progressivement.
C'est un objectif ?
C'est pas un objectif en soi, ça va devenir une nécessité. Et puis on souhaiterait effectivement pouvoir offrir un poste à un salarié, peut-être saisonnier dans un premier temps, pour animer l'association et nous aider dans certaines tâches. Ça peut permettre à quelqu'un de développer du savoir-faire. On pourra bien entendu le former. Et faire un bout de chemin avec lui s'il le souhaite. Mais bon, pour l'instant, en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est un peu compliqué. On espère qu'on va en sortir rapidement.
D'ailleurs, vous avez toujours du public ?
Alors, on a toujours du public. Et l'année dernière, qui était une année quand même très, très difficile, on a pu voler pendant 6 mois, parce qu'il y a eu des restrictions, bien sûr, pendant les différents confinements. Mais pendant ces 6 mois, la demande a été très forte. Tout à fait, de manière un petit peu étonnante du reste, et ça nous a encouragés, bien sûr, à continuer. Malheureusement, on a eu un petit peu les ailes coupées à l'automne, hein, comme tout le monde, comme toutes les associations, et cette année, donc, on essaye de repartir, de monter de nouveaux projets, en espérant une sortie de crise au début de l'été.
Vous avez des liens avec d'autres associations localement ?
Alors, nous avons des liens avec d'autres associations, effectivement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que bon, nous sommes affiliés à la Fédération ULM, mais aussi à la Fédération Handisport. Donc, nous avons des liens et des activités avec des clubs handisport de la région. sont plutôt sur la région de Montélimar-Valence. Hein, dans ce territoire, il y en a finalement assez peu. Il y a quelques personnes, par contre, qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui pratiquent avec nous. Et nous avons des liens avec une association de la région qui pratique l'aéromodélisme, qui est une activité finalement de pilotage par procuration, hein, et qui est accessible à des personnes en situation de handicap. C'est pour ça qu'on travaille avec eux. Alors nous avons aussi des liens avec, alors ce ne sont pas des associations, mais des prestataires comme le centre de Chanteduc, avec lesquels on travaille
à Borrière.
Et on a un très bon partenariat avec eux.
Oui, parce que justement aussi, ils accueillent beaucoup de personnes en situation de handicap.
Ils accueillent des personnes en situation de handicap ou pas, et des personnes qui ont parfois envie de faire un petit tour en ULM. Et on a coopéré avec eux, notamment là pour Noël, où ils avaient fait une petite offre de repas de Noël et de vol en ULM, enfin des choses comme ça. Et on va poursuivre ce partenariat cette année.
Est-ce que vous aimeriez être en lien avec d'autres?
Ah, bien
c'est
sûr.
Le moment de les citer, qui vous manque, avec qui vous auriez envie de travailler.
Alors, on a de nombreux soutiens, et ça nous fait plaisir. D'abord la commune de Lèche qui nous a aidés, le département, la région un petit peu moins, et puis aussi des partenaires dans le monde de l'entrepreneuriat local. Je peux les citer.
Ah oui.
Voilà. On a d'excellentes relations avec l'entreprise BCB de Borrière qui nous a construit le hangar, qui nous aide régulièrement, donc c'est un partenariat fort sympathique. On a un partenariat aussi avec la Caisse locale de Crédit Agricole qui est un de nos soutiens et un acteur important de nos activités parce que quand il faut financer des opérations, bien entendu la banque joue son rôle. Et on regrette un petit peu de ne pas avoir plus de contacts et de relations avec le monde de l'entreprise. On a essayé, bon, c'est pas pour des questions financières, c'est simplement pour essayer d'être davantage connu, éventuellement de nouer des partenariats techniques. Et pour l'instant, on n'a pas réussi. Donc voilà, si ça peut inciter quelques entreprises à nous contacter, à se rapprocher de nous, ou à des associations, bien entendu, on en sera très heureux.
C'est vrai, ça, comment est-ce qu'on vous connaît, finalement ? Est-ce qu'il faut être directement intéressé par l'ULM ?
Nous sommes partenaires de l'Office du tourisme, hein, bien entendu. Donc on nous trouve et on a des gens qui viennent de là. Nous avons un site web, nous avons différents moyens de communication. On met des petites affiches, enfin, comme toutes les associations de la région. Bien entendu, on est sur les registres de notre fédération ou de la fédération Handisport. Et puis, ben, voilà, on est aujourd'hui tous les deux pour en parler. C'est une très bonne chose.
Exactement. Quel public vous pensez toucher sur le territoire, précisément ? Est-ce que c'est vraiment des gens qui viennent de l'extérieur ou en local ?
Alors, on a un public qui est d'une grande, je dirais, mixité, à la fois d'origine sociale ou autre, avec dans le club bon, des anciens, des gens qui viennent, par exemple, du vol libre, hein, du parapente, qui disent, tiens, parce que... Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais sur la plateforme, on accueille aussi l'atterrissage du vol libre qui part de la montagne du Puy. On a une convention avec la fédération pour les accueillir en sécurité. On a bien sûr de très bonnes relations. Donc on a des gens du vol libre qui viennent nous voir en disant « Tiens, j'essaierai bien avec un moteur pour voir ce que ça fait ». On a des personnes qui sont dans la région, notamment on a un de nos membres qui est éleveur, agriculteur et qui apprend à piloter. Et puis on a des gens qui viennent de l'extérieur, parce qu'on commence à être un petit peu connus malgré tout, et modestement, pour faire des stages pendant l'été, pour voler quelques jours avec nous, découvrir les particularités du vol dans des régions montagneuses qui sont quand même particulières à survoler et pour atterrir sur certaines surfaces. Voilà, donc c'est assez varié, éclectique et sympathique en fin de compte.
Ça fait deux fois qu'on en parle, alors quelles sont les particularités du vol en montagne ?
Alors, lorsqu'on évolue dans des reliefs comme ceci, ou plus important, lorsqu'on va plus dans les Alpes, on est tributaire en fait de l'aérologie, c'est-à-dire de mouvements de l'atmosphère verticaux, horizontaux, en
fonction des
ascendances, comme ça. Qui sont exploités par les planeurs, mais qui, pour un ultra-léger motorisé, peuvent être quand même assez gênantes. Et donc, il faut les connaître. Il faut savoir évoluer dans le relief. C'est quelque chose qui s'apprend, parce qu'on a des problèmes de référence visuelle qui vont changer. Et l'atterrissage sur des altiports ou altisurfaces, sur des terrains pentus, nécessite un apprentissage particulier. Et puis surtout, je dirais beaucoup de prudence. Et une capacité à évaluer la difficulté et à savoir éventuellement renoncer à se poser si les conditions ne sont pas réunies. Donc ça demande petit peu de travail technique, mais aussi du travail sur soi pour arriver à gérer ces situations en sécurité.
Oui, on imagine, il n'y a pas une autonomie énorme, sans doute avec un ULM. Si on est pris dans un ascendant à aller contre le vent, au bout d'un moment, on fatigue.
Alors aujourd'hui, alors y a deux problèmes. C'est que dans la turbulence, vous allez fatiguer la machine, qui a une structure qui est prévue pour résister à certaines situations, mais pas n'importe lesquelles. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, alors vous parliez d'autonomie. Alors aujourd'hui, on a des machines qui sont essentiellement thermiques. On évolue doucement vers l'électrique aussi, mais c'est un petit peu compliqué parce que les batteries, c'est lourd. Mais on a des moteurs qui sont modernes, qui sont fiables, qui sont puissants. Et le rapport puissance-poids d'un ultra-léger motorisé est nettement avantageux par rapport à l'aviation certifiée, en fait. Donc, au niveau performance, on est plutôt bien loti. En termes de fiabilité aussi, ça a beaucoup, beaucoup évolué avec des machines qui ont 4 heures ou 5 heures d'autonomie. Hein, voilà, qu'on adapte en fonction du vol. On ne transporte pas du carburant inutile, généralement, surtout en montagne. Donc, de ce côté-là, non. Les machines qu'on utilise sont très adaptées au vol dans ces situations, moyennant les limites qu'on peut rencontrer de phénomènes qui peuvent être un petit peu violents.
Et je voulais qu'on revienne sur cette machine spéciale pour personnes à mobilité réduite.
Ah oui.
C'est une spécificité, vous l'avez fabriquée vous, c'est une invention ou alors ça existe ailleurs?
Alors c'est un sujet qui nous intéressait depuis longtemps. Moi, j'avais été confronté à des situations d'adaptation de machines pour des personnes handicapées dans mon activité professionnelle. Et je trouvais que l'aviation certifiée s'y prêtait mal pour des questions de contraintes réglementaires extrêmement lourdes. Et l'ULM, à cet égard, nous paraissait tout à fait intéressant parce que capable de s'adapter plus facilement à toutes ces contraintes.
Et oui, la personne peut être totalement autonome, rentrer, sortir de l'appareil.
Voilà,
plus facilement.
Et surtout, on peut plus facilement adapter la machine, techniquement, au niveau de la construction, sans avoir à faire justifier des essais en vol, des contraintes très très lourdes, bien entendu. Et donc, on a décidé un jour de se lancer là-dedans. Alors moi, je suis handicapé, hein, ça se voit peut-être pas, mais j'ai été en fauteuil, donc je connais bien le problème. Et quand j'étais en fauteuil, j'avais qu'une idée, c'était de revoler. Voilà. Et donc, l'idée de Volandi, on l'a appelé comme ça, Volandi en un seul mot, un petit clin d'œil au latin, est partie de là, de l'idée que voler quand on est handicapé, c'est possible, mais il faut pouvoir voler de manière la plus autonome possible. Je crois que c'est important pour une personne en situation de handicap de se sentir autonome et libre. Et donc, on a construit cette machine autour du fauteuil. C'est une espèce de fauteuil volant. Donc, il n'est pas très aérodynamique. Il a quand même quelques défauts. Mais par contre, on passe assez facilement à bord et on le pilote avec les mains. En plus, c'est une cabine ouverte. Donc, voilà,
c'est un peu c'est là qu'on mange les insectes.
Oui, on pourrait. C'est un peu la moto du ciel, si vous voulez. Quoi. Voilà. Pardon. Ce projet a intéressé nos amis qui a une certaine notoriété dans le monde de l'audiovisuel. Il s'appelle Michel Drucker, qui s'est intéressé à nous et qui nous a aidés à monter ce projet, qui nous a ouvert quelques portes et qui nous a soutenus. Et on en est très, très heureux. On est resté bien sûr en contact avec lui. Et il a eu quelques problèmes de santé. Il fait son retour sur scène et ça nous fait très plaisir de le retrouver.
Oui, il nous enterrera tous.
En bonne santé. Oui, c'est probable. Oui, voilà. Et donc l'idée est partie de là, la machine a été construite alors, avec l'aide de nos amis qui est technicien, qui avait la capacité à le construire, et les membres du club y ont participé. Donc on a monté nous-mêmes les ailes, les empennages, on a mis des milliers de rivets dans des tôles pendant plusieurs semaines, de manière à ce que cette machine puisse voler. Le premier vol a eu lieu en 2015. Et depuis, on a formé, on a emmené toutes sortes de personnes avec des handicaps parfois très lourds. J'ai même emmené des personnes qui sont tétraplégiques et qui ont le souvenir de ce vol, c'est assez extraordinaire. Et on a formé des élèves. On a formé un pilote qui a eu son brevet. On a d'autres élèves en cours de formation et on fait très régulièrement des vols de découverte, soit à Lèche, soit sur d'autres plateformes de la région, en association avec des organismes comme France Handicap ou comme des clubs handisport ou d'autres structures.
Et est-ce que vous êtes pionnier alors?
Non, on n'est pas pionnier. La Fédération ULM s'intéresse à cette question depuis déjà une vingtaine d'années et fait pas mal d'initiatives. Et maintenant, je travaille aussi pour la fédération sur ce sujet-là au niveau national, et je m'aperçois qu'il y a un peu partout sur le territoire des initiatives du même ordre qui ont été prises, soit par des personnes privées qui avaient un handicap, perdu un membre qui souhaitait piloter, soit par des structures qui accueillent donc aujourd'hui ces personnes, et on travaille pour essayer d'organiser davantage et de mieux faire connaître ce type de possibilité d'activité pour des personnes handicapées.
Ouais, c'est important. Et concernant les prix?
Alors, un baptême de l'air, petit vol de découverte qui dure environ 15 à 20 minutes, qui va permettre de survoler la vallée de la Drôme et les environs, coûte 35 euros pour une personne. Nous n'avons qu'une seule place à bord, bien sûr.
C'est extrêmement peu cher.
Alors, on fait en sorte que ce soit peu cher par le bénévolat, en serrant nos coûts de manière à ce que ce soit le plus accessible possible. Au-delà, on peut faire des vols plus longs. Bien sûr, le tarif est proportionnel à la durée. Mais si on veut vraiment voler en ULM, on peut devenir membre de l'association. Donc là, il y a une cotisation à payer qui coûte 100 euros pour l'année. Et ensuite, l'heure de vol sur nos machines coûte 84 euros. Plus éventuellement des frais d'instruction, si c'est de l'instruction, mais pour se faire un petit tour comme ça, c'est 84 euros de l'heure de vol. Donc ça reste aussi très accessible. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite.
Est-ce que vous avez rencontré des freins? Est-ce que vous voyez des freins à votre activité aujourd'hui?
Non, on n'a pas vraiment de freins. Bah, si ce n'est bien sûr qu'on n'est pas très nombreux, donc on a plein de projets, mais il faut les réaliser les uns après les autres. Que l'aspect financier est toujours un problème, même si on trouve des solutions, des aides, et si on se retrousse les manches pour aboutir. Les seuls freins sont un peu des freins administratifs, liés à l'existence des plateformes comme la nôtre, ou ce qui devient de plus en plus complexe. Mais ce n'est pas un problème local, c'est un problème national en fait.
C'est quoi, c'est les normes?
C'est des normes, c'est la coexistence avec des projets éoliens, c'est parfois aussi des problèmes avec, dans certains cas, avec des riverains, pour des questions de nuisance. Alors ça n'est pas notre cas à Lèche, on est très isolé et puis on est très, très vigilant sur cet aspect-là, avec des machines qui aujourd'hui sont quand même beaucoup, beaucoup plus silencieuses. Mais il y a pas mal de plateformes sur lesquelles il y a eu même des fermetures de terrain, et ça c'est une vraie problématique pour le maintien de cette activité.
Quels sont vos projets pour les mois à venir et les années à venir?
Alors on est en train de terminer notre local associatif en fonction des problèmes sanitaires, parce qu'on est tous un peu des têtes grises. Donc, c'est comme ça. Il y a des jeunes aussi parmi nous, quand même, heureusement. Même des jeunes filles qui apprennent à piloter. Mais donc, on va terminer ce bâtiment et on voudrait le mettre en service pour l'été. Il sera bien sûr entièrement accessible aux personnes en situation de handicap. Il y aura des sanitaires, il y aura tout ce qu'il faut. Ce qu'on voudrait, début juillet, si la situation le permet, organiser une journée spécifique pour des personnes en situation de handicap, qu'on fera venir de divers endroits de la région, tous ceux qui voudront bien venir. Et on poursuivra le lendemain par une journée porte ouverte, grand public, tout public, avec nos amis pilotes du coin qui viendront nous rejoindre. Et on voudrait faire découvrir, lors de ces journées, un engin dont on a détecté l'existence il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le Swincar, qui est un engin de mobilité électrique très novateur, qui permet de faire des promenades dans la campagne. Et en plus, c'est un engin qui est très respectueux de l'environnement, puisqu'il est entièrement, bien sûr, silencieux, il n'y a pas d'émissions. Il a des moteurs électriques avec un couple progressif, donc on n'arrache pas la terre nulle part, on n'arrache pas l'herbe, et ça nous permettrait de montrer sous un autre aspect la région à des personnes handicapées, puisqu'il est bien sûr aussi accessible à des personnes handicapées. Il est pilotable, tout à la main. Et puis, il peut aussi intéresser des gens qui viennent visiter la région, qui sont pour quelques jours en train de se balader. Certains se baladent à pied, mais certains aussi peuvent se balader en vélo ou en swing car. C'est un engin à quatre roues, assez sympathique et novateur. Donc voilà, donc on va le présenter. Si on arrive à trouver des financements, on pourrait peut-être envisager une acquisition. Ça reste bien sûr à démontrer au plan de la faisabilité de l'exploitation, parce qu'il ne suffit pas d'acheter, il faut que ça ait un sens, et un sens économique. Et ça pourrait permettre à ce moment-là de recruter quelqu'un qui s'occupe de la gestion de ce type d'appareil, de la gestion de la base. Donc ça, c'est aussi un autre projet. Et puis, alors, on a des projets au niveau du vol en montagne, développer cette activité. Mais on souhaite le faire progressivement, à notre mesure. D'une part, parce qu'on a des capacités de développement qui sont bien entendu limitées et qu'on souhaite rester discret dans le paysage. On ne veut pas créer de nuisance, on ne veut pas attirer trop de trafic non plus. Il faut que ça reste un développement qui soit durable et respectueux de la nature.
Oui, j'allais le dire, on ne vous voit pas tant que ça quand même.
Non, parce que...
J'ai pas l'impression de voir des ULM en permanence dans le Diois.
Non. Mais c'est vrai que l'activité reste relativement modeste. Qu'on évite de voler bas, on évite de voler près des reliefs, et notamment en ce moment pour ne pas gêner les oiseaux qui sont en pleine reproduction. Et que c'est pas du tout là notre intérêt d'aller nous montrer en vol rasant et d'embêter la population et nous faire remarquer par des activités excentriques. Nous sommes des gens sérieux et responsables. Enfin, du moins, on essaye.
On vous a pas appelé pour de la pub ou pour filmer pour
On a suivi la Dromoise.
C'est ça, qui me semblait
ans.
Bien.
Il y a deux ans, on avait fait un petit reportage. Alors, c'était sympathique d'ailleurs. Alors l'ULM n'est pas forcément très très adapté parce qu'il se déplace quand même, et filmer une course de vélo qui avance à sa vitesse, c'est pas forcément très simple, mais ça a été un moment amusant, sympa, et si on a la possibilité, on le renouvellera. On peut également bien sûr faire des prises de vue, on en fait de temps en temps, on fait des photos. Moi j'ai longtemps pratiqué l'archéologie aérienne, donc l'ULM est aussi une bonne plateforme de découverte de notre passé, enfin, des traces qu'il peut laisser dans les cultures.
Par exemple ?
Ça permet de découvrir par différence de hauteur dans les céréales la trace de bâtiments anciens. Alors aujourd'hui bien sûr il y a le drone qui permet de faire ce travail, mais en découverte l'ULM a la possibilité de se déplacer davantage et surtout on a l'œil du pilote ou en tout cas de l'archéologue qui est à bord, qui a quand même un regard un peu particulier, un peu aiguisé pour la détection de ces substructions enfouies.
C'est mieux que la caméra quoi.
La caméra peut venir après pour faire des photos plus en détail et sans doute moins onéreuses et moins nuisantes, mais l'œil de l'opérateur en direct, voilà, aujourd'hui on sait pas le remplacer.
Et pour terminer, si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose sur ce territoire, qu'est-ce que vous feriez ?
Oh, c'est une vaste question. Je vais y répondre à mon niveau et à ma mesure. Nous, à travers cette activité et à travers d'autres activités au village, puisque nous avons créé des chambres d'hôtes, nous sommes investis un petit peu dans le tourisme, dans un tourisme particulier, un petit peu confidentiel, bien entendu. C'est pas du tourisme de masse. Et on a un peu le sentiment que le tourisme dans la région est créé par des initiatives plutôt individuelles et que les collectivités s'y intéressent sans doute, mais pas de manière coordonnée. Et on souhaiterait que cette situation puisse évoluer un petit peu, parce que je crois que les touristes, un tourisme organisé, bien sûr, il ne s'agit pas de tourisme de masse, il ne s'agit pas de voir défiler des hordes de camping-cars, de caravanes dans la région, il y a déjà des espaces pour eux. Mais je crois qu'il y aurait à faire dans la découverte de la nature pour permettre à des personnes qui sont d'autres territoires de venir ici et d'y passer un moment agréable, de découvrir des choses, d'apprendre, d'être en contact avec la population et avec les collectivités locales. Donc il y a sans doute un chantier.
Dans ça passerait domaine. Par vous mettre un peu tous en lien, acteurs du tourisme vert, on va dire ça, comme ça.
Oui, ça passe par nous mettre en lien. Alors, c'est déjà ce que fait la communauté de communes à son niveau. Mais je trouve que, il me semble que certaines communes sont un petit peu en retrait sur le sujet et qu'on pourrait faire un petit peu plus.
Comment on vous contacte ? On a envie d'être adhérent, de participer, de travailler à vos côtés.
Alors, on me contacte, donc je vous ai apporté...
Sur le 06
un flyer, oui, sur le 06. On a aussi un site web, on a une adresse électronique, une page Facebook.
On va les citer, hein. Donc le 06, c'est le 06 80 52 87 47, donc ça c'est votre numéro.
Ça c'est mon numéro.
Alain Réveillon. Et puis le site, donc c'est club.ulm.o.diwa.free.fr.
Voilà. Et l'adresse mail club.ulm.o.diwa@gmail.com et via l'office du tourisme également. ou en faisant un petit tour sur le plateau de l'Esch. Vous sortez du village vers Beaurières et on nous voit très facilement.
Vous y êtes tout le temps ?
On n'est jamais très loin. On habite le village, on est souvent sur place. Et là, on recommence à avoir de l'activité.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
D'abord, merci de cette belle initiative. Je trouve que c'est très sympathique. Et oui, j'ai oublié quelque chose. On a l'année dernière, en partenariat avec la caisse locale de Crédit Agricole, mis en place des baptêmes de l'air que l'on offre aux personnes, aux soignants, aux personnes qui sont occupées de nous pendant ces différents confinements,
c'est-à-dire
aux commerçants de proximité, au personnel de sécurité, au personnel de la MARPA. On a fait quelques-uns de ces vols l'année dernière entre deux confinements. Cette offre est toujours valable et on espère qu'on aura des personnes qui vont nous contacter pour faire ces vols-là tout au long de l'année, dès qu'on sera sorti un petit peu de ces événements pénibles. En tout cas, on les attend et on est prêt à les faire voler. Pour les
ce qu'on a appelé les premiers de corvée sont invités à voler.
Absolument.
Au club ULM de l'Esch.
Sur ce territoire. Voilà.
Bravo.
Merci beaucoup.
Et merci à vous d'être venu.
Merci.
Portrait d'association.